Costa Milana. Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour ou bonsoir selon votre position géographique et merci d'avoir choisi la radio Inzamba. Nous sommes dimanche le 20 novembre 2022. C'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. À la présentation, Joséphine Johnson-Zimana. À la une de l'actualité qui a marqué cette semaine, c'est l'élection de Kanyana Aimé Laurentine au poste de l'ombudsman du Burundi par l'Assemblée nationale. C'était le jeudi dernier. Sur les 120 députés qui étaient présents à Kigobe, 39 ont voté pour et remplace Eduardo Imana qui a terminé son mandat à ce poste. Qui est le nouvel ombudsman? Aimé Laurentine Kanyana, le nouvel ombudsman, se comporte beaucoup plus comme un membre du parti au pouvoir plutôt qu'un médiateur de la République. Cela se traduit par les actes qu'elle a posés dans différentes fonctions de l'État qu'elle a occupées dans le passé. En tant que ministre de la Justice, par exemple, Aimé Laurentine Kanyana a fait du corps de la magistrature un instrument de répression des opposants politiques. On fait le point avec Georges Nimenya.
Aimé Laurentine Kanyana est retenue dans le cadre de l'opposition comme une fervente défenseuse des violences commises par le pouvoir de l'ancien président défunt Pierre Nkurunziza. D'abord, en tant que membre de la Cour constitutionnelle en 2015, elle faisait partie des juges qui ont validé le troisième mandat inconstitutionnel de Pierre Nkurunziza, un rôle qui a valu le poste de ministre de la Justice. Durant les 15 ans de pouvoir de Pierre Nkurunziza, l'actuel ombudsman a gravé plusieurs échelons dans le secteur de la justice. Juriste de formation, elle a brillé dans la transformation de la magistrature burundaise en un instrument de répression du pouvoir contre ses opposants. On se souviendra d'abord qu'en 2008, alors juge à la Cour suprême, Aimé Laurentine Kanyana a participé dans le dossier judiciaire qui a condamné l'ancien président du CNDD, Hussein Najjar. C'est quand elle est devenue ministre de la Justice que l'actuel ombudsman a fait du corps de la magistrature un véritable outil de répression du pouvoir. Les défenseurs des droits de l'homme burundais en exil ont dénoncé le cynisme avec lequel l'ancien ministre a traité les militaires torturés en 2017 à Muyinga, comme le caporal-chef Fulgence Ndayikengurutse, torturé avant d'être condamné à 30 ans de prison, accusé de rébellion sans aucune assistance judiciaire. L'affaire a suscité de remous chez les défenseurs des droits humains et dans une interview donnée à RFI, Aimé Laurentine Kanyana s'en est pris ensuite dans des termes graves et méchants à Pierre Claver Mbonimpa, défenseur des droits humains, qui l'accuse de vouloir, je cite, « dégager les criminels de leurs responsabilités ». Le poste de Mbosman est occupé pour la première fois par une femme, Aimé Laurentine Kanyana, comme son prédécesseur, tous du parti au pouvoir au CNDD-FDD, ne donne pas, en tout cas, d'espoir en tant que médiateur de la République du Burundi.
Par rapport à cette élection, Jérémy Minani, président du parti RDB, a vite réagi. Il a montré noir sur blanc comment ce poste a été toujours occupé par des gens qui se laissent toujours téléguider par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Je vous prie de l'écouter.
Pourquoi l'Ousmane du Burundi est toujours choisi dans le parti CNDD-FDD? Apparemment, le profil recherché, en premier lieu, semble être celui d'une femme ou d'un homme membre du parti CNDD-FDD, membre zélé du parti CNDD-FDD. Et cela gomme la crédibilité de l'institution elle-même, parce que c'est une institution qui était censée être neutre. L'Ombudsman est une personnalité qui est censée jouir d'une certaine indépendance qui lui permettrait effectivement de jouer ce rôle en tant que médiateur de la République. Le problème, c'est que quand le comportement qui a caractérisé le premier ombudsman et le deuxième ombudsman, ce sont des gens qui apparemment travaillent pour le parti CNDD-FDD, ce sont des gens qui respectent, qui appliquent les volontés des dirigeants du parti CNDD-FDD. Et cela s'est caractérisé notamment par le fait que ils se sont écartés de leurs fonctions de sorte que ils ont mis en avant l'intérêt premier politique d'origine, et ils se sont illustrés comme étant en réalité des personnes téléguidées, télécommandées par le parti CNDD-FDD. Et comme je viens de le dire, la crédibilité de l'institution d'Ombudsman est gommée par ce fait que c'est le degré de militantisme au parti CNDD-FDD qui semble être mis en avant dans le choix du candidat. Il faut regarder le profil de ces personnes qui sont choisies pour occuper ce poste. Deuxièmement, on choisit toujours des gens qui semble être médiocre. Si on prend l'exemple de M. Edouard Ndouimanaï, il a été, ça découle de son passé. On connaît M. Edouard Ndouimanaï quand il était ministre de l'Intérieur, quand il a semé le trouble dans le fonctionnement des partis politiques. Et il n'y a aucun doute que Mme Kanyana fera la même chose, parce qu'on la connaît. Elle était ministre de la Justice. Elle s'est illustrée comme une personne qui n'a pas la compétence et la capacité à devenir ombudsman du Burundi.
Le mouvement Une mort des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi a salué l'élection d'une femme à la tête de l'institution de l'ombudsman. Marie-Louise Valichako, présidente de ce mouvement, attend d'elle un message appelant tous les Burundais, surtout les administratifs, à rétablir l'unité et la dignité pour bâtir un Burundi nouveau. Une tâche qui ne sera pas du tout facile pour elle. Dans l'actualité qui a marqué cette semaine, c'est aussi son 19e anniversaire de la signature des accords de cessez-le-feu entre le mouvement armé FDD de l'époque avec le gouvernement burundais d'alors. C'était le 16 novembre 2003. Eh bien, 19 ans plus tard, aucune avancée en matière de démocratie prônée par le mouvement pour la défense et la démocratie au Burundi. Frédéric Mbuginyumvila, le président de la plateforme de l'opposition Sefora Arusha, évalue négativement le bilan de ce mouvement devenu le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Pour cet ancien vice-président de la première transition et combattant pour la démocratie au Burundi, ont perdu leur temps.
Le constat, franchement, il est très amer. D'abord parce que ce qu'ils nous disaient en venant, en disant voilà, nous allons transformer le pays, malheur à ceux-là qui ont gâché le passé, et ils vont être punis, et ce n'est pas cela qu'on a vu, qu'ils n'auront pas où se cacher. Mais on a vu que justement, ce parti regorgeait beaucoup de criminels qui ont eu se cacher. Ça, c'est la première chose. Nous avons eu le développement des politiques qui promettaient aux Burundais monts et merveilles, mais nous avons juste eu le contraire. Le constat est tel que le CNDD-FDD, visiblement, a pris la décision de dire, voilà, nous venons de gagner, nous venons d'entrer dans les institutions, et nous sommes supposés avoir gagné la guerre, même si nous sommes venus par le truchement du dialogue. Et par conséquent, on devrait vous remercier, vous qui avez aidé sur le terrain. Mais on ne peut pas trouver quoi vous donner, et par conséquent, aller vous débrouiller là où vous serez. D'où justement l'idée de la corruption qui gangrène le pays depuis la base jusqu'au sommet. On ne peut pas ne pas le dire ainsi. C'est une réalité. Ça veut dire que l'argent du contribuable est collecté et géré par un groupe de personnes qui le distribue à son tour à ces gens qui ont été avec eux au niveau, je ne sais pas, de la religion, de la guérilla. En tout cas, l'argent est ainsi distribué. La population devient misérable. C'est l'expression qu'il faut utiliser ici. Donc, le CNDD-FDD n'avait aucune vision et tentait plutôt de manipuler la masse via la religion. Donc, on veut absolument forcer tous les Burundais à, dans cette foi où on ne pose pas de questions et qui leur permet de cacher justement cette faiblesse notoire de gérer convenablement l'État. Donc, je peux dire tout simplement que cette fracture sociale résulte du fait que, au lieu d'avoir des hommes d'État qui puissent venir réorganiser l'État, nous avons des oiseaux pilleurs.
Et puis la semaine dédiée à ceux que le CNDD-FDD qualifie toujours de héros a été lancée le mercredi de la semaine écoulée. Les cérémonies se sont déroulées en commune Manda, c'est dans la province de Mwanza. Les activités ont été ouvertes pour animer ce suivi d'une marche jusqu'au monument du combattant. Pour Réverien Dikurio, le secrétaire général du CNDD-FDD, cette semaine qui s'est clôturée dans la province de Luigi, avait pour objet de se souvenir de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Dans l'actualité qui a marqué cette semaine, écoulée revenant sur ce nombre des militaires impliqués dans le détournement des fonds à l'état-major général de l'armée à la direction centrale de traitement qui n'a pas cessé de s'alourdir. Durant la semaine qui s'achève, ils étaient au nombre de 120 détenus dans ce dossier. Certains d'entre eux ont refusé de répondre aux questions de l'auditorat militaire. Ils ont exigé la présence des nouveaux et des anciens chefs d'état-major de l'armée qui sont encore en vie. Les détails avec Pierre Garoumo.
Le nombre de militaires qui ont été arrêtés dans ce dossier depuis le début du mois d'octobre s'élève à 120. Parmi eux figurent ceux qui travaillaient dans le bureau de traitement BT, qui à l'époque était le bureau central de traitement BTC. Les informations recueillies au sein de l'armée disent que même ceux qui ont été envoyés dans des missions de maintien de la paix à l'étranger ont été convoqués par le chef d'état-major, le général Prim Niyongabo, pour interrogatoire. Les mêmes informations révèlent aussi que c'est eux-mêmes qui devraient se payer les billets d'avion pour rentrer au pays. Les militaires craignent que ce dossier risque d'être classé sans suite, puisque le général Prim Niyongabo aurait trempé dans ce dossier en exigeant des virements de montants sur son compte. Nos sources affirment aussi que certains militaires impliqués dans ce dossier ont refusé de répondre aux différents interrogatoires de l'auditorat militaire. Ils exigent la comparution des différents anciens chefs d'état-major encore en vie et ceux qui sont aux commandes de l'état-major aujourd'hui. L'auditorat militaire, qui a ordonné l'arrestation de ces militaires, en majorité des sous-officiers, est en train d'enquêter sur le vol d'une somme importante d'argent, estimée à des milliards de francs burundais. La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, a appelé par téléphone le colonel Floribert Biyereke pour qu'il puisse donner la lumière sur ce dossier, mais sans succès.
Avant de clore cette rétrospective de l'actualité, abordons ce chapitre de l'économie. 500 millions de francs burundais de capital et 50 millions de quotients. C'est la condition exigée par la Banque centrale pour que les bureaux d'échange démarrent officiellement leurs activités. Dans une rencontre avec ses opérateurs, ce vendredi dernier, la BRB les a invités à s'associer pour constituer ce capital. Suivez Soliman Ferdinand, directeur des opérations à la Banque centrale.
Au niveau des critères d'agrément, nous avons le capital minimum qui est passé de 100 millions à 500 millions pour les nationaux, tandis que ceux qui veulent investir dans son domaine et en état des étrangers sont aussi les bienvenus dans le domaine, mais le capital minimum doit être libéré à monnaie étrangère et c'est évalué à 400 000 dollars pour ceux qui veulent commencer en tant qu'étranger. Une autre nouveauté, mais ce n'est pas une nouveauté comme telle, c'est juste les montants qui ont varié. C'est la caution qui est exigée, qui doit être déposée à la Banque centrale pour une manifestation du bureau de change qu'il est à l'œuvre. Ce montant est passé de 10 millions à 50 millions. Et pour les étrangers, c'est 40 000 dollars ou l'équivalent à une autre devise, surtout en euros. Quant aux autres aspects de fonctionnement des bureaux de change, la nouveauté, c'est l'obligation d'adhésion à une association professionnelle des bureaux de change. Cette disposition existait bien avant, mais cette fois-ci, on y a mis plus d'attention pour exiger que toute personne ou toute entité qui aura à faire le change manuel devra adhérer à cette association professionnelle. Et cette association professionnelle, ce sera un cadre pour les changeurs de discuter par rapport à leurs activités professionnelles. Comme on en a discuté, pas mal de questions tournées autour de ce capital qui est jugé élevé. La logique qu'on a pris, et c'est juste un conseil au niveau des échanges, c'est que la dynamique actuelle, c'est une dynamique associative. Et nous avons bien expliqué que si une personne ne peut pas avoir le capital minimum exigé, ils peuvent se mettre à deux ou à trois ou en une association pour mettre ensemble le capital pour pouvoir arriver à son niveau de capital requis. C'est d'ailleurs la logique nationale des mouvements associatifs.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. Passons un bon dimanche chez vous. À la prochaine.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.